Étudiez les langues avec podcast, un service de l'École Club Migros. La vie de Marie, un podcast au niveau A2, B1. Pour tout matériel supplémentaire, consultez notre site web www.podclub.ch.
Bonjour, bienvenue sur mon podcast La vie de Marie. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mars et nous allons dresser un petit bilan des Jeux olympiques qui se sont déroulés à Sotchi. Ensuite, nous parlerons de cinéma, un cinéma en deuil. Et enfin, puisque c'est de saison, de carnaval. Les Jeux olympiques sont terminés. Les médailles ont été distribuées. Faisons donc le point. Médaille d'or de l'oppression, M. Poutine. Première médaille pour la Russie. Une pensée donc à tous ces nombreux détenus qui sont derrière les barreaux en Russie, car ils ne partagent pas l'opinion du chef de l'État. Certains ont été libérés avant les Jeux olympiques pour faire bonne figure. Mais ils sont encore des milliers condamnés à des peines de prison très longues avec des charges fabriquées ou exagérées. Médaille d'or de la corruption en général. Les amis de Poutine. Et encore quelques médailles pour la Russie. Un tiers des 37 milliards d'euros prévus pour les Jeux olympiques auraient disparu. Cet argent détourné aurait profité, entre autres, à la société Rothenberg, dont les dirigeants sont des amis d'enfance du président, et au chemin de fer russe, dont le patron est également un proche de Poutine. Médaille d'or de l'exploitation des migrants, les entreprises russes chargées de la construction du site olympique. Pour que tout soit prêt pour les Jeux olympiques, la Russie a fait appel à environ 16 000 étrangers, employés par les entreprises chargées des constructions sur le site olympique. Plusieurs ONG ont dénoncé les conditions de travail déplorables, les journées de travail trop longues et le peu de jours de repos. Bien souvent, les logements dans lesquels les ouvriers étaient logés étaient surpeuplés et les repas insuffisants. Médaille d'or du non-respect de l'environnement, la Russie. Nouveaux hôtels, nouvelles routes, nouvelles installations sportives, nouvelles infrastructures de transport, Sotchi a été transformé. Une transformation que condamnent les militants écologiques. La rivière aurait été polluée. Les déchets des chantiers auraient été enfouis illégalement. Certains habitants n'avaient plus d'eau depuis le début des travaux. Des plages ont disparu. Et une partie du centre olympique a été construite sur le territoire d'une zone protégée. Les militants qui ont protesté, eux, ont été arrêtés et mis en prison. On pourrait aussi donner à la Russie la médaille d'or des expropriations, car malheureusement, souvent pour construire ces places où auront lieu ces belles rencontres sportives, des milliers de gens sont expulsés. Le Brésil mériterait lui aussi cette médaille pour la construction du stade qui va accueillir la Coupe du monde de foot. Comptons les médailles. 15 pour la France, 24 pour les Pays-Bas, 27 pour les États-Unis, 33 pour la Russie. Oui, oui, c'est bien la Russie, la grande gagnante des Jeux olympiques. Ne vous méprenez pas, j'adore la Russie, son peuple, sa culture. Parce que j'y ai eu l'occasion d'y travailler et j'en garde de très bons souvenirs. Je suis juste inquiète de la savoir gouverner par un dirigeant à la main de fer. Bien sûr, il peut se vanter d'avoir réalisé un des plus grands chantiers du monde où des bâtiments ont poussé comme des champignons pendant 6 ans. Il peut se vanter d'avoir pris des mesures de sécurité exceptionnelles. Des dizaines de milliers de policiers, de militaires cachés dans la foule, des missiles cachés dans les montagnes, pour que ces Jeux se déroulent sans problème, malgré les menaces d'attentats. La fête du sport a eu lieu. Mais à quel prix? Que dire? Vive le sport! Le cinéma est en deuil. Un monstre sacré du cinéma français est décédé. le réalisateur Alain Resnais. Dès son premier long-métrage en 1959, « Hiroshima, mon amour », il invente ce qu'on appellera le nouveau cinéma. Resnais était un avant-gardiste qui casse les codes cinématographiques classiques. Dans ses films, le texte est important, la théâtralisation tout autant. Chez lui, la narration linéaire, par exemple, n'est pas respectée. La temporalité est déconstruite. Il n'y a plus de logique temporelle du récit. Il est considéré comme le père de la modernité au cinéma, qui toujours expérimente. On l'a associé à la Nouvelle Vague, car il était contemporain de Truffaut et de Godard. Mais il n'a jamais voulu être associé à ce cinéma réaliste. Car pour lui, l'esthétisme est ce qu'il y a de plus important dans un film, plus que la réalité, qui n'est pas toujours belle. Il associe le cinéma à la littérature. Ce sont des écrivains qui lui écrivent les scénarios. Marguerite Duras a écrit « Hiroshima, mon amour » et Alain Robbe-Grillet l'année dernière à Marienbad. Le cinéma de Resnais est un cinéma décalé, original, qui parle d'amour, de politique, de mémoire. Si au début ses films étaient jugés un peu trop décalés, s'il a eu du mal à trouver le financement de ses films, il a réussi à séduire le grand public. Le film « On connaît la chanson », sorti en 1997, où il s'amuse à détourner les paroles de tubes de variété, sera son plus grand succès. On reconnaît aussi ses films à son casting. Dans « Smoking, no smoking », on retrouve la même troupe de comédiens que dans « On connaît la chanson » ou dans « Vous n'avez encore rien vu ». Resnais, qui est mort à 91 ans, était un vieux monsieur moderne et engagé, et encore actif. Puisque vous aurez l'occasion de voir son dernier film « Aimer, boire et chanter », qui sortira dans les salles le 26 mars. Comme quoi, être créatif stimule la longévité. Ça y est, c'était reparti. Les festivités de carnaval avaient recommencé. Encore un carnaval. Je n'avais pas pensé y participer cette année, mais j'y ai été entraînée. C'était samedi dernier, et dans les alentours, il y avait plusieurs bals. Des amis arrivent à la maison avec une idée derrière la tête et des déguisements dans le coffre de leur voiture. Cela, je l'ai su ensuite. On prend l'apéro et on parle de carnaval. Chacun raconte ses souvenirs de déguisement. Moi, je me suis souvenu du costume qui m'avait demandé le plus de travail. Je m'étais un jour déguisé en ballon de foot. Il m'avait fallu des semaines pour assembler les hexagones noirs et blancs pour former le ballon de foot. On discutait et de fil en aiguille, l'idée est venue de sortir et de se déguiser. Et voilà mes amis qui cherchent leurs affaires du coffre de la voiture. Moi-même, j'ai de grands sacs avec des chapeaux et de vieux vêtements. Je ne jette jamais rien, car j'adore, c'est vrai, me déguiser. J'ai de vieilles vestes de toutes les couleurs, des chapeaux de toutes les formes, de vieux pulls, des robes d'une autre époque. On a pris ces vêtements et ceux que certains avaient ramenés et on a fait des essayages. Il fallait trouver le subtil mélange de couleurs et de matières qui allait donner un résultat ridicule, mais non moins esthétique. Qu'est-ce que nous avons ri ! Une fois habillés, il fallait se maquiller. Un peu de noir autour des yeux, du bleu sur les yeux, du rouge sur les pommettes et du rouge bien rouge sur les lèvres. La métamorphose était impressionnante. Après, pour garder des souvenirs de ces déguisements, nous avons pris des photos. On a posé, on s'est filmé et on a ri. Sur mon ordinateur portable, j'ai une fonction pour créer des effets, pour déformer les visages, agrandir les yeux, tordre le nez. Nos séances photos ont duré une bonne partie de la soirée. Enfin, peu avant minuit, nous étions prêts. Carnaval pouvait commencer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans 2 semaines sur www.podclub.ch et nous parlerons des élections municipales et d'anniversaire. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vous trouvez la version écrite de cet épisode sous www.podclub.ch. À propos, dans les écoles club, vous pouvez commencer un cours de langue à tout moment. Consultez notre site web et n'hésitez pas à vous inscrire. Nos adresses de site web sont les suivantes. www.klubschule.ch, www.ecoleclub.ch et www.scuolaclub.ch.